Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi. J'ai un chat qui me poursuit depuis le Pays Basque. Je suis content d'être avec vous ce matin. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin en famille. Néanmoins, nous ne pensions pas revenir aussi rapidement et aussi sans la présence de Robert, bien entendu. Le Seigneur fait des choses qui sont souvent étonnantes à nos yeux. Merci, frère. Excusez-moi. Si vous permettez, je vais attraper une machine. Je ne vous ai jamais vu aussi nombreux. Alors, je vous transmets les salutations de l'Assemblée de l'Église du Centre biblique d'Anglette, ou Église biblique baptiste d'Anglette. Les frères et les sœurs vous saluent. Richard Rosner, le pasteur donc, qui connaissait bien à Toulouse Robert Bixby et Robert et sa famille. Vous salue aussi. Sachez que les frères et les sœurs d'Anglette, vous ne les connaissez pas beaucoup, eux ne vous connaissent pas beaucoup, mais ils ont à cœur de prier pour vous, de prier pour la famille Bixby aussi, et c'est encourageant. Je vois beaucoup de têtes que je connais, mais j'ai des surprises aussi de voir des personnes peut-être nouvelles dans l'Assemblée, mais avec qui j'ai voyagé aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Je veux parler d'Elisabeth là, qui est là. Je vais prendre une photo, si vous permettez. Voilà. Moi, je vais prendre une photo. Alors que je priais pour avoir la direction de la part du Seigneur pour prêcher un message aujourd'hui, après le départ inattendu de Robert. La semaine des obsèques, nous devions monter à Bordeaux pour rencontrer Robert, justement, rencontrer aussi la famille Teach Out. Nous ne savions pas que le Seigneur voulait effectivement que nous montions à Bordeaux, mais pour une autre raison. Le Seigneur a attiré mon attention sur trois tragédies bibliques, comme notre frère Lala l'a évoqué tout à l'heure, et plusieurs l'ont dit aussi. On peut dire trois tragédies que notre Seigneur a permise dans le passé, car Dieu permet des tragédies, Dieu permet des épreuves, et c'est vrai que d'un certain point de vue, la vie ici-bas n'est pas facile. Mais la vie avec le Seigneur, c'est différent, ça a un goût tout à fait différent. Ces trois tragédies que le Seigneur m'a mis à cœur de revoir, de placer sous mes yeux, mais aussi de partager avec vous, c'est celle d'abord de la crucifixion du Seigneur Jésus, du Messie, la lapidation d'Étienne et la persécution de Paul et de Silas. Mais il est important, lorsque l'on regarde ces tragédies d'un point de vue biblique, de regarder aussi ce qui a suivi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai que le monde, c'est une remarque que me fait souvent mon épouse Valérie, et comme vous savez, elle-même a grandi l'essentiel de son temps aux États-Unis, mais aussi un peu en France, elle a remarqué une chose dès son adolescence, que en France, la plupart des films finissent mal. Alors que la plupart des films américains, ou en tout cas c'était dans le passé, un passé encore récent, l'histoire finissait bien, ou les histoires finissent bien. L'influence de la philosophie de vie d'une culture est grande sur l'industrie cinématographique, et aux États-Unis, on a souvent à cœur, peut-être inconsciemment, de prendre en compte ce qui va arriver après. S'il y a épreuve, il va y avoir victoire aussi. En France, souvent, on ne connaît pas ça. Et les discours que l'on entend, c'est par ces jours où que les élèves qui vont dans les écoles, qui étudient de la philosophie ou des textes de français, souvent sont plus à faire face à des textes sans espoir, des textes de désespoir, plutôt que des textes d'espoir et d'espérance, car l'espérance, elle est attachée à la personne de Dieu, à la personne du Seigneur Jésus. Alors voyons cette première tragédie, nous allons aller dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Nous revenons donc à Jérusalem, 2000 ans en arrière, où les 12 disciples, les 12 apôtres de Jésus-Christ, ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Et voilà que la fin du ministère de Jésus approche. Mais eux, les disciples, ne le savent pas. Eux, les disciples, ne savent pas que la fin du ministère du Seigneur Jésus arrive, bien que Jésus l'ait mentionné à plusieurs reprises. J'ai dans ma Bible, dans les évangiles, vers la fin des évangiles, chaque fois que Jésus va mentionner à ses disciples qu'il devra mourir et qu'il ressuscitera le troisième jour, j'ai mis dans la marge, une croix bien visible en rouge. Et chaque fois que je tourne les pages, plus ou moins vite, je vois ça. Ce qui me rappelle que le Seigneur Jésus les avait prévenus. Et bien qu'il les ait prévenus, quelque part, c'est comme si ils ne savaient pas que le ministère du Seigneur Jésus, au bout de 3 ans et demi, arrivait à son terme. Lisons donc dans Jean 19, les versets 17 et 18. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et si nous lisons quelques versets plus loin, versets 25 à 27 du même chapitre 19, il est écrit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Les autres disciples ne sont pas mentionnés dans ce passage. Étaient-ils près aussi, ou à quelque distance, ou pas là? Nous le savons. Mais il est difficile pour nous d'imaginer avec justesse le choc émotionnel qu'a dû être le Messie, leur Messie, crucifié. Ces disciples qui ont vécu 3 ans et demi avec le Seigneur ont vécu des chocs successifs dans les dernières heures du Seigneur Jésus qui se sont terminés par cette mort terrible, ce supplice terrible que pratiquaient les Romains pour exercer le pouvoir et et maintenir un peuple dans l'obéissance et dans la crainte et dans la peur. Mais lisons aussi dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, ce qui est dit du verset 1 à 11. Marc, chapitre 16, verset 1 à 11. Donc Jésus a été, dans la précipitation de ces événements, a été crucifié. Puis a été descendu de la croix, a été mis au tombeau. Le sabbat est passé. Et nous voilà le dimanche matin. Et nous lisons, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeait et pleurait. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Les disciples du Seigneur Jésus, les 11 maintenant, sont pris au dépourvu, sont pris à contre-pied, on dirait. Malgré le fait que Jésus, à multiples reprises, ait annoncé sa crucifixion et sa résurrection, les 11 sont brisés par le choc de la mort de celui qu'ils avaient reconnu comme leur Messie. Celui qui était puissant en parole et en acte. Et les disciples sont affligés. Et le texte nous dit ici, ils s'affligeaient et ils pleuraient en ce dimanche, alors que Jésus était ressuscité. Et ils pleuraient et s'affligeaient depuis ce terrible vendredi après-midi. La mort du Messie promis, avec lesquels ils avaient passé donc 3 ans et demi, leur est soudainement incompréhensible, inimaginable, c'est la pire des tragédies qu'ils pouvaient imaginer. Et ce qui est étonnant, c'est que les 11 n'en ont pas fini avec les chocs émotionnels. Parce qu'après 36 heures de brisement et de larmes, de nouveaux chocs vont arriver. Les annonces de la résurrection de Jésus prennent les 11 encore au dépourvu, et il leur faut encaisser le choc, digérer la réalité de la résurrection, digérer la réalité de la joie de la résurrection. Ce n'est pas simplement une information. Et puis, il y aura la rencontre avec leur Messie ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ. Étonnamment, la pire des tragédies permises par Dieu, la mort du Messie annoncé, se trouve être suivie de sa résurrection et devenir le plus grand triomphe. La mort est vaincue et le péché est expié. Seul Dieu peut faire une telle merveille. Seul Dieu peut faire des choses comme cela. Permettre une telle tragédie de laquelle en découle des merveilles. Alors, quelque temps après, peut-être à la fin de cette année-là, 33, ou peut-être en 34, nous voilà avec un homme, toujours à Jérusalem, Étienne, l'un des diacres de l'Assemblée de Jérusalem, nouvelle, grandissante, déjà très grande. Étienne est aussi l'un des champions, si je puis dire, de l'Assemblée de Jérusalem. Alors, après la venue du Saint-Esprit sur les disciples à Jérusalem, donc après la Pentecôte, vous savez que les disciples, les apôtres, ont prêché avec puissance l'Évangile dans Jérusalem. Et les résultats sont étonnants. Vous l'avez certainement lu ou étudié comme au moins. 3000 juifs, nous lisons ça dans le chapitre 2, verset 41, dans les Actes. 3000 juifs deviennent disciples de Jésus-Christ, reconnaissent Jésus pour leur Messie. Puis un petit peu plus tard, nous lisons ça en Actes chapitre 4, au verset 4, que ces 5000 hommes qui deviennent disciples de Jésus-Christ. Et si c'est 5000 hommes, c'est sans compter les femmes. Donc, il y a beaucoup, en ce temps, juste après la Pentecôte, de quelques semaines, quelques mois peut-être après, il y a déjà des milliers de disciples de Jésus-Christ à Jérusalem. Et c'est le début de l'Église de Dieu à Jérusalem. Et l'Assemblée vit un véritable état de grâce, au sens noble du terme, voit la main de Dieu agir, voit des miracles, des prodiges, voit des conversions, voit des choses étonnantes se passer. Mais ça n'est pas sans tension avec les chefs religieux, avec les pharisiens, avec les religieux juifs qui ont le pouvoir spirituel sur le temple et sur la nation d'Israël. Et alors des choses merveilleuses se passent à Jérusalem, et je vous invite à lire avec moi dans Actes au chapitre 6 quelques versets. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6 à partir du verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Le Saint-Esprit, bien sûr. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons vu, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin, ce qu'on pourrait appeler le conseil national juif, des anciens de la nation que le pouvoir romain permettait d'exister pour régler différentes affaires en rapport avec ce que les Romains appelleraient la religion juive et les choses culturelles, disons. Verset 13, ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Puis, au chapitre 7, que nous ne lirons pas, c'est le message d'Étienne. Puisqu'on lui donne la parole, il va parler. Rempli du Saint-Esprit, dirigé, conduit, poussé par le Saint-Esprit, Étienne va parler de la part du Seigneur, rappeler des choses au Sanhédrin, et des choses qui sont irréfutables, qui sont incontestables, parce qu'elles sont dans la parole de Dieu, elles sont connues de tous ces Juifs, et cela va déclencher la fureur des membres du Sanhédrin, et ça va aboutir à la lapidation d'Étienne, comme vous le savez. Lisons à la fin du chapitre 7 de Actes, les derniers versets, à partir du verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, tous les membres du Sanhédrin, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Je continue ma lecture au chapitre 8, les quatre premiers versets. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Cette deuxième tragédie que le Seigneur m'a mis à cœur de relire et de partager avec vous, comme vous le voyez, comme vous le savez, c'est la lapidation d'Étienne. c'est, comme nous l'avons lu au chapitre 6, Étienne, c'était l'un des champions de l'assemblée de Jérusalem. Chapitre 6, il est dit que Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est au verset 5 que nous lisons ça. De même qu'il y avait d'autres diacres à ses côtés qui avaient été choisis par l'assemblée. Il est dit que, au verset 8, que Étienne était plein de grâce et de puissance et il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et bien sûr, certains juifs ont voulu discuter, argumenter avec lui, certains qui n'étaient pas, bien sûr, disciples de Jésus-Christ. C'est donc l'un des champions de Dieu, de l'Assemblée de Jérusalem, qui est lapidé, qui est assassiné. Et nous avons lu que l'Assemblée, excepté les apôtres, l'Église de Jérusalem et tous, hein, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et il ne reste plus que les 11 à Jérusalem dans ce moment. Mais toute l'assemblée de Jérusalem dispersée, c'est au moins, comme nous l'avons lu, 5000 hommes. Puisque nous avons lu que... Le nombre des hommes s'élevait à environ 5000 hommes, sans parler des femmes. Hommes et femmes ensemble, familles ensemble, c'est peut-être 10 000 personnes qui sont dispersées à cause de cette persécution. Ce n'est pas juste une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes comme peut-être nous sommes ce matin. Là, c'est des milliers de personnes qui sont soudainement, après cette tragédie, obligés de se disperser. Étonnamment, cette tragédie est suivie par l'annonce de l'Évangile dans toute la Judée, plus uniquement à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. Grâce au martyr d'Étienne. En fait, cette tragédie fait devenir les membres de l'Assemblée de Jérusalem des témoins. Ces témoins dont Jésus avait parlé avant l'ascension, juste avant. Vous vous souvenez, en Actes chapitre 1, verset 8, il leur avait dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem !» Et ils l'ont été à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce pan, cette étape, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, ça n'était pas réalisé encore. Dieu a utilisé cette tragédie de la lapidation d'Étienne, à qui il a donné une grâce toute spéciale. Parce que, vous vous souvenez, quand Étienne a été lapidé, il est dit, et après ces paroles, ne leur impute pas ce péché, des paroles que Jésus avait prononcées aussi sur la croix vis-à-vis de ceux qui l'avaient crucifié. Après ces paroles, il est dit, il s'endormit. C'est quand même spécial de s'endormir sous les jets de pierre. Grâce tout à fait spéciale. Et Dieu a utilisé cet événement, cette tragédie, et la persécution qui s'en est suivie, pour disperser. Et ça n'a pas dû être facile. Ça a dû être des épreuves pour beaucoup de familles dans la précipitation. Dieu a utilisé cela pour faire quelque chose de merveilleux. En rapport avec sa parole, pour que l'accomplissement de Actes chapitre 1, verset 8, avance dans le temps et progresse. L'évangile avait été annoncé à Jérusalem, maintenant, le voilà annoncé dans toute la Judée et dans la Samarie. Ben, seul Dieu peut faire de pareilles merveilles en dépit des tragédies ou à cause ou grâce aux tragédies. Ça me rappelle une anecdote que je mentionne souvent aux États-Unis, mais en France aussi. Cela me rappelle une année, 1492. Aux États-Unis, on sait très bien, mais en France, on sait souvent aussi que 1492, c'est un rapport avec Christophe Colomb, qui a découvert le Nouveau Monde. On se souvient rarement que Christophe Colomb a été envoyé ou a reçu les fonds et le financement pour son entreprise par le roi d'Espagne et la reine. Le roi, c'était Ferdinand, hein, et la reine, Isabelle. Et ce même roi et cette même reine, en 1492, ont décrété... ont écrit et signé un décret d'expulsion de tous les Juifs d'Espagne. Et si je me souviens bien, ils avaient 20 jours, 21 jours pour quitter l'Espagne, sans avion, sans train, sans voiture, sans hélicoptère ou sans bus. 21 jours pour quitter l'Espagne. Ça a dû être dramatique. Parce qu'il faut du temps pour quitter toute l'Espagne, et aucun pays n'avait les portes ouvertes grandes pour les Juifs. C'est ainsi que des Juifs sont arrivés au Pays Basque et se sont installés, ou du moins on les a parqués de l'autre côté de la rivière Adour, à Bayonne, dans un quartier que les catholiques ont nommé le quartier Saint-Esprit. Intéressant. Et ils les ont parqués là. À l'époque, il n'y avait pas de pont pour traverser. Il y avait un bac seulement. Et les temps étaient très durs. Étonnamment, ça a amené pour le Pays Basque une bénédiction. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec la lapidation d'Étienne. Mais cette bénédiction, dont beaucoup dans le Pays Basque ne connaissent pas l'origine, c'est que les Juifs expulsés d'Espagne qui sont arrivés à Bayonne avaient avec eux des recettes de chocolat. Et c'est ainsi que le chocolat est arrivé et est devenu une spécialité du Pays Basque avec beaucoup d'artisans juifs qui faisaient d'excellents chocolats. Mais on ne se souvient pas généralement, surtout les consommateurs et les amateurs de chocolat, qu'en 1492, ces juifs avaient eu 21 jours pour quitter l'Espagne, autrement il mourrait. Je reviens au début de l'ère chrétienne, au premier siècle. Des années ont passé après le martyr d'Étienne, et nous nous trouvons maintenant vers 47-48, c'est-à-dire à peu près 14 ans après la Pentecôte. Seul le persécuteur, le meurtrier, est devenu l'apôtre Paul. Et l'évangile s'est répandu en Judée, en Samarie, même au-delà. L'évangile a atteint la ville d'Antioche, au nord d'Israël, au nord du Liban. Et à Antioche, il y a des champions de Dieu dans l'assemblée d'Antioche. Si vous lisez en Actes chapitre 13, vous savez comment Paul et Barnabas ont été appelés, non pas par l'assemblée d'Antioche, mais ont été appelés par Dieu pour être mis à part et pour être envoyés par l'assemblée en obéissance à ce que Dieu leur disait par le Saint-Esprit. Et voilà Paul et Barnabas qui partent et qui vont vers l'Asie mineure. Et c'est le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Si cette semaine vous avez un petit peu de temps, lisez ces deux ou trois chapitres à partir de Acte 13, le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et si vous avez un petit peu de temps, si vous avez soif d'aventure et de choses extraordinaires, relisez tout le livre des Actes. C'est fabuleux. Parce que le livre des Actes, c'est un livre où il y a la présence du Saint-Esprit partout. Il y a des tragédies presque dans chaque page. Et il y a la joie quasiment dans chaque page. C'est étonnant. Je me souviens quand j'étais à l'Institut biblique à Algrange, où Robert allait régulièrement pour enseigner, j'avais eu un devoir qui avait été de regarder le thème de la joie dans le livre des Actes. Et j'avais déjà étudié la Bible et passé des heures et des heures à étudier la Bible depuis ma conversion. J'étais converti depuis, à cette époque, 4 ou 5 ans. Et ma surprise a été grande de découvrir que dans le livre des Actes, la joie est omniprésente, en dépit des circonstances, en dépit des épreuves, en dépit des persécutions. Je vous encourage à dévorer le livre des Actes et à vous arrêter sur différents sujets. D'ailleurs, je vous donnerai, si cela vous intéresse, je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite. Il y a un auteur américain qui est très peu connu et qui a été le directeur de l'Institut Moody à Chicago. Peut-être plusieurs d'entre vous avaient entendu parler de l'évangéliste Moody. Et il y a un institut biblique, un institut Moody qui avait été créé à Chicago. Et un des directeurs, parce qu'il y en a eu plusieurs bien sûr, dans les années 50-60 je crois, s'appelait Jensen. Et toute sa vie, il a étudié la parole de Dieu. Et il a essayé, pour chacun des livres de la parole de Dieu, pour les 66 livres de la Bible, il a essayé d'en faire un résumé en une page. Plus exactement, d'en faire un résumé en un dessin. Un tableau, si vous voulez. Et cet homme a passé des années et des années, certainement, à ébaucher son tableau, à raffiner son tableau, à changer, etc. Et c'est un excellent exercice d'essayer de faire cela, de voir quel est l'essentiel, quelles sont les articulations d'un livre, quels sont les mots-clés, les thèmes-clés, etc. Essayer de mettre parfois, quand c'est utile, des dates, voir à peu près à quel endroit cela se situe. Et il existe deux tomes, en anglais bien sûr, qui vous donne soit les tableaux qui résument chacun des livres de la Bible, soit vous avez l'option aussi de lire le livre et de découvrir pas à pas, de fabriquer vous-même votre tableau en étudiant la parole de Dieu. Si on a du temps, si on a du zèle, au moins pour quelques livres clés, ça peut être excellent comme étude à faire ou à faire à quelqu'un pour découvrir la parole de Dieu. Mon but, c'est de, petit à petit, chaque année, de faire un ou deux tableaux comme ça, en français. Bon, j'en ai quelques-uns en réserve, mais ici, j'ai par exemple le tableau en français du livre des Actes. Ça ressemble à quelque chose comme ça. J'en ai amené des copies, si cela vous dit de prendre une copie, pour étudier le livre des Actes et avoir en permanence sous les yeux, quand vous avez du temps, ce tableau, et d'abord de le suivre pour vérifier si ce qui est écrit est exact, et peut-être pour compléter des choses, peut-être pour découvrir des choses, pour étudier. Il y a un petit peu de quelques mots qui sont en anglais, mais la plupart est en français. Ça peut être un outil
absolument extraordinaire comme aide pour étudier le livre des Actes.
Et ça peut vous donner des idées pour étudier d'autres livres. Alors, donc, nous trouvons à ce moment, 47-48, vers le voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Et puis, après le retour de Paul et Barnabas à Jérusalem, puis à Antioche, en 49-50, cette fois-ci, c'est le début du deuxième voyage missionnaire, ça va être Paul et Silas, comme vous le savez, qui sont conduits par le Saint-Esprit, et arrêté par le Saint-Esprit, car il faut le dire, et nous allons en Actes chapitre 16, nous allons lire quelques versets. Actes chapitre 16, versets 6 à 12. Actes chapitre 16, versets 6 à 12. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, donc c'est en Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, donc le Saint-Esprit, ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas. Et là, ils sont partis vers l'ouest, vers la mer Égée, vers ce qui est Constantinople, pas très loin maintenant, vers, de l'autre côté, c'est la Macédoine et la Grèce. Donc ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, « Nous cherchâmes, » dit Luc, auteur du livre des Actes, « nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie romaine. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Incidemment, le Saint-Esprit a barré la route du nord à Paul et Silas en Asie mineure, en Turquie d'aujourd'hui. Il a barré la route du nord pour les faire bifurquer vers l'ouest et arriver à Troas. Je fais comme si j'avais une carte. Il faudrait que je vous amène une carte aussi en relief. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cartes en relief d'Israël. C'est un outil que j'utilise souvent. Je vous en amènerai une un jour, Dieu voulant. Et donc, arrivé à Troas, ils comprennent que si Dieu les a arrêtés, les a empêchés d'aller vers le nord de l'Asie mineure, c'est pour aller vers l'ouest. On est dans l'Empire romain. Rome est loin là-bas, mais il y a la Grèce ici. Et on est aux portes de l'Europe. Et le Saint-Esprit, même par un songe, leur fait savoir, ça, c'est la direction. Dieu ouvre les portes vers l'Europe. Alors pour nous, c'est facile de savoir en 2017... que c'est l'Europe, aujourd'hui c'est l'Europe, je ne sais plus si c'est des 26 ou des 27, 28 pardon. Nous avons le recul, mais essayons de nous mettre quelques instants, mettre nos pieds dans leurs chaussures. Ils sont ils savent que le Seigneur a barré une certaine route et qu'il ouvre des portes pour qu'ils avancent vers l'ouest, vers Troas, vers Philippe. Et lisons à partir du verset 16, dans ce chapitre 16 des Actes. C'est Luc qui continue son récit, poussé par le Saint-Esprit, il raconte ce qui s'est passé. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. L'esprit en question était un démon, et comme vous savez bien, les démons ont été, avant leur chute, dans la présence de Dieu. Donc, connaissaient Jésus et connaissaient la doctrine de Jésus, bien entendu. Et les serviteurs de Jésus, comme Paul. Verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats, et les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les ait eu chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Paul et Silas ont bien compris que le Saint-Esprit les a arrêtés de progresser vers le nord, qu'il fallait aller vers l'ouest. Ils vont vers l'ouest, et qu'est-ce qui les attend? Épreuve, tragédie, des coups, jetés en prison avec les ceps aux pieds. Mais étonnamment, cette tragédie va être suivie par une série d'événements extraordinaire concernant l'annonce de l'évangile. Et cela commence par le salut du geôlier de Philippe et de sa famille. Et nous lisons du verset 25 au verset 33. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs pieds, leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et Paul et Silas sont relâchés. Et la suite, que je n'ai pas le temps de lire ce matin, est vraiment passionnante. Car après l'épreuve, une légère interruption, mais qui a permis à ce que l'évangile soit annoncé, qu'une famille soit sauvée, et que l'église de Philippe démarre en juste une soirée. Les portes s'ouvrent ensuite à Thessalonique, à Bérée, peut-être à Athènes aussi, à Corinthe, où vous savez certainement, vous vous souvenez peut-être de votre lecture, que Paul et Silas demeurèrent 18 mois à Corinthe, où Corinthe est devenue une base pour Paul et Silas pour former les disciples. Et pour former les disciples qui vont aller dans toute la région. Vous lisez en ce moment, en lecture suivie, les épîtres aux Thessaloniciens, et vous savez que cette église de Thessalonique, qui a bénéficié d'un passage extrêmement court, deux sabbats, de Paul et de Silas, cela était suffisant pour démarrer cette assemblée et que la foi des Thessaloniciens soit connue dans toute la région. Dieu fait des choses absolument extraordinaires. Dieu permet que des tragédies arrivent. Et c'est manifeste. Il permet que les disciples du Seigneur Jésus soient, que nous sommes aussi, soient surpris, soient pris de court, soient ébranlés et soient même brisés. Le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle au chapitre 8 et au verset 17. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, dit l'Ecclésiaste. J'ai vu que l'homme, permettez-moi d'ajouter quel qu'il soit, l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Mais Dieu non seulement permet les tragédies, mais aussi il les utilise dans son plan rédempteur. Il a permis que Jésus soit crucifié, mais c'était le moyen de la rédemption. C'était le moyen que nous, les hommes, ne connaissant pas l'histoire biblique, nous ne pouvons pas imaginer, nous ne pouvions pas imaginer que Jésus soit crucifié et que par la mort et sa résurrection, il soit vainqueur sur la mort, sur le péché et offre ainsi un salut gratuit à tout le monde. Dieu a permis aussi qu'Étienne soit lapidé, mais c'était pourtant le moyen étonnant qu'il a utilisé pour disperser les disciples, pour qu'ils aillent en dehors de Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, pour qu'ils commencent à faire ce qu'il avait déclaré en Actes 1, verset 8, qu'ils soient des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu a permis aussi que Paul et Silas soient battus et emprisonnés à Philippe, aux portes de l'Europe, ou même en Europe, mais c'était en fait le moyen de toucher le geôlier de Philippe et sa famille, et de démarrer des églises locales dans toute la Macédoine et la Grèce, et ensuite bien au-delà. Et vous savez que en quelques décennies seulement, tout l'Empire romain a entendu l'Évangile. Toute l'Asie mineure a entendu l'Évangile. Sans smartphone, sans Internet, sans voiture, sans avion, sans train, sans bus. Mais tout l'Empire romain a entendu l'Évangile. Et Dieu a fait cela conformément à ce qu'il avait annoncé par Jésus, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu utilise des choses qui font mal dans la vie pour faire des choses et des œuvres qui sont étonnantes. Des œuvres étonnantes en nous et autour de nous. avant que mon cancer ne flambe et nécessite un traitement, des traitements, je connaissais, comme vous connaissez aussi, ce passage de Romains 8, 28, qui nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quand l'épreuve vient, il est dur de se souvenir de ce verset. Néanmoins, ce verset est toujours là. On peut pas prendre, ou on pourrait prendre une paire de ciseaux et l'enlever de la page, mais ça ne serait pas être fidèle à la parole de Dieu au Seigneur. Mais à la lumière des tragédies que nous avons passées en revue ce matin, à la lumière de ce verset, nous voyons et nous comprenons pourquoi Paul a dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu est le seul capable de faire des choses merveilleuses tout en permettant des tragédies. Ainsi, si le départ inattendu de Robert vers la gloire est douloureux pour les membres de sa famille, pour ses amis, pour l'Église, peut-être que, sûrement, que Dieu, qui a toutes choses entre ses mains, a de grandes choses en préparation, qui pour nous ne sont pas visibles encore. Il a certainement de grandes choses en préparation pour que l'Évangile soit annoncé avec encore plus de force. Non seulement à Bordeaux, Pessac, mais conformément à la parole de Dieu, à ce que Jésus a dit à ses disciples, pour que l'Évangile soit annoncé dans toute la Gironde. Et aussi vers les Charentes. Et aussi vers la Dordogne. Et aussi vers le Lot-et-Garonne. Et même les Landes. Conformément à son grand commandement qu'il a donné en Matthieu 28, versets 18 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et vous vous souvenez qu'il a rajouté, et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Notre Dieu, notre Seigneur, Jésus, étant tout-puissant, il est évident qu'il a des plans qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Et lorsque, comme le cantique le dit, comme l'attitude de Paul et de Silas dans la prison de Philippe, avec les ceps aux pieds ayant été battus et jetés en prison, ont chanté des cantiques, ont levé les yeux vers le ciel, nous ne pouvons que les imiter et chercher à faire de même, et surtout lever les yeux vers celui qui est le Tout-Puissant et dont le plan inclut les épreuves, mais permet des bénédictions au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il nous appelle à invoquer son nom. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3. Ces exemples de tragédies que nous avons vus, en fait, nous montrent qu'elles produisent des résultats étonnants, inattendus. Et quand on considère ces choses, elles sont de nature à remplir nos cœurs d'espérance et à nous attendre de grandes choses de la part du Seigneur. Même si notre chair, nos raisonnements, nos conversations, notre tristesse, nos émotions nous ramènent à ce que nous pourrions appeler la réalité, mais n'oublions pas de dire terrestre. mais il y a une réalité céleste, merveilleuse, un plan extraordinaire qui va se dévoiler petit à petit. Car le Seigneur Jésus a préparé d'avance pour nous, comme vous le savez, des œuvres à la mesure non pas de nos capacités charnelles, mais à la mesure de son ambition, à la mesure de sa puissance, à la mesure de son plan. Et son plan, c'est d'atteindre toute la terre jusqu'aux extrémités avec l'Évangile. Et il nous invite à le suivre et à entrer dans ces œuvres qu'il a préparées d'avance. La seule chose qui nous incombe, en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est de lui dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Ou de lui dire collectivement « Nous voici, Seigneur, envoie-nous. » Ou peut-être tout simplement « Seigneur, en levant les yeux vers le ciel, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Seigneur, que veux-tu que nous fassions collectivement? Jésus avait offert sa vie en sacrifice. Il a offert sa vie en sacrifice. Étienne a offert sa vie au Seigneur Jésus. Paul et Silas ont offert leur vie au service du Seigneur Jésus, je dirais sans restriction. Si nous ne mettons aucune restriction, si nous ouvrons totalement notre cœur à la volonté du Seigneur, si nous lui disons que nous voulons le suivre, lui obéir, faire sa volonté, quelle qu'elle soit, sachant qu'il a des plans étonnants pour nous, nous pouvons, et je crois qu'il nous invite à chacun, vous, moi, nous, en Anglette, ici à Bordeaux, à nous offrir, sans restriction, à capituler devant le Seigneur Jésus, à laisser nos raisonnements et à le laisser nous conduire. Et nous serons étonnés par les choses, les grandes choses qu'il fera. Allez-vous le faire? Allons-nous le faire? La réponse est entre nos mains.